Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt disponible en téléchargement sur le site du RESF, hein, resf.info/radio. Philippe, tu vas tout de suite, enfin quand je dis Philippe, c'est Philippe qui va démarrer, mais tout le monde va intervenir, nous parler de Calais et puis des... En commençant par les derniers développements et cette enfin, dernier développement et finalement on pourrait remonter à 2002. Et...
On peut se contenter de remonter à il y a moins d'un an en fait.
Oui, mais on va remonter à il y a moins d'un an. Hein, donc on avait parlé du démantèlement, de l'évacuation des squats et des jungles qui est à Calais. Toujours pour revenir quand même sur l'étymologie de jungle.
Oui, qui veut dire le bois. C'est les Afghans qui ont essentiellement ramené ce nom-là. Donc on habite dans une maison, dans une ville, ou alors on habite dans les bois, avec ce que ça veut dire aussi de mode de vie, soit sauvage, soit hors des normes sociales. Quoi. Mm-hmm.
Et donc, il se passe, c'était donc il y a un an, le démantèlement ou l'évacuation de toutes les...
L'auto-évacuation sous pression policière avec assistance associative, parce que quand même, quand la police passe à 8 heures et puis que des gentils bénévoles passent à 10 heures avec un van, la police disant « vous avez jusqu'à la fin du mois pour dégager là où on vous dit de dégager, sinon ça va être violent », et puis à 10 heures on a le van qui arrive, on va vous aider à déménager. Finalement, en 15 jours, les gens qui voulaient pas partir ont basculé, les premiers ont profité du van, et puis ça a été un mouvement d'entraînement. Ceux qui voulaient éventuellement rester là jusqu'à l'arrivée de la police, voire résister, sont sortis de plus en plus faibles parce qu'il y avait de moins en moins de monde. Donc ça s'est passé comme ça, tout comme au moment où l'État a décidé d'installer un camp de containers sur le site du bidonville, donc en détruisant les habitations des personnes qui habitaient là où l'État voulait mettre ses containers. Le déménagement a été fait par une partie des associations, de même que quand l'État a dit « il faut un no man's land le long de la rocade qui mène au port », là encore, ça s'est passé aussi parce qu'une partie des associations ont fait déménager les gens. Là, il se trouve que trop, c'est trop, donc il y a au moins un consensus pour ne pas participer à l'évacuation. Et il y a un recours en justice qui a été intenté, qui a été à moitié perdu, enfin avec des nuances, mais qui, du coup, c'est un peu ce genre de jugement au tribunal administratif où finalement l'État arrive à l'audience ou remet un certain nombre de documents, disons voilà, on va prendre des mesures, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc du coup, le juge valide finalement la parole de l'État et du coup valide la décision d'expulsion. Et puis on se rend compte après que ça ne se passe pas comme ça avait été dit. Donc effectivement, on devait avoir une évacuation progressive, sans violence. Le ministre l'avait dit, la préfète l'avait dit, ça avait été entériné dans les attendus du jugement. Et puis finalement... Effectivement, ce n'est pas les bulldozers qui détruisent les maisons, c'est moins spectaculaire, c'est détruit à la masse et au pied de biche, mais c'est quand même le même schéma, et puis la police avançant, étant présente en nombre, les gens de la préfecture allant de porte en porte en disant aux gens qui doivent partir, ne les informant pas que seules les habitations vides sont censées être détruites. Donc on dit aux gens de partir, donc leur habitation est vide, donc on la détruit. Et puis les gens qui montent sur le toit de leur cabane, on les fait descendre en les menaçant au flashball et on les tabasse un peu, voire on les arrête. Donc il y a eu des personnes arrêtées, on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues. Donc les choses se passent avec la force, comme on pouvait le prévoir. Après, il y a un peu ce côté visible de l'emploi de la force, effectivement, là où les gens ne veulent pas se plier à ce qu'on veut leur faire faire, là où ils ne veulent pas volontairement, entre guillemets, abandonner leur habitation. Mais il y a surtout la violence extraordinaire de détruire les habitats, et là, à une échelle de plusieurs milliers de personnes, à l'échelle d'une petite ville, qu'on rase comme ça, parce que les gens n'ont pas à être là. Et la violence, elle est beaucoup plus de ce côté-là que dans des gestes du style gazé, matraqué, qui sont des violences, effectivement, qui sont des violences quotidiennes d'ailleurs à Calais, mais qui ne sont pas la seule forme de violence dans ce contexte-là.
Oui, il y a eu pas mal de maisons quand même qui ont été incendiées. Et donc on a dit que ces maisons avaient été incendiées par les no-boarders ou par les habitants des maisons.
Alors, il y a eu des feux qui ont été faits à partir des décombres des maisons détruites, effectivement. Ça s'était déjà vu au moment où il y a eu l'évacuation pour constituer Snow Man's Land le long de la rocade. En fait, les gens ont accepté de partir, mais tout ce qui restait, en fait, de débris, d'habitations qui n'avaient pas pu être déménagées, donc qui allaient être détruites par le bulldozer, ça, ils l'ont incendié, pour marquer leur rage, en fait. Mm-hmm. Les feux, ça a été aussi, lundi, une manière de freiner l'avance des CRS.
Okay. Et j'ai entendu aussi qu'il y avait des feux qui avaient tout simplement été provoqués par des tirs de grenades.
Aussi, oui.
Mais je trouve que Philippe, tu as complètement raison. Et la violence, la pire, c'est la violence d'État. C'est sous couvert de ces politiques publiques, la politique publique là, telle qu'on la voit mise en œuvre, elle apparaît clairement dans la décision du tribunal administratif de Lille. Donc il y avait un référé suspension pour essayer de suspendre la décision de la préfète de raser cette partie, la partie sud de la jungle. Et quand on lit la décision du tribunal administratif, on est quand même saisi. On voit, par exemple, la représentante de la préfète qui dit « La dignité humaine est une composante de l'ordre public. » Donc là, c'est plus la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est « La dignité humaine est une composante de l'ordre public. » Donc, pour la dignité humaine des migrants, on va aller détruire leurs habitations puisqu'ils n'habitent pas dans les endroits dignes. On ne dit rien sur le fait qu'on les laisse après pour la très grande majorité d'entre eux dans la boue sans plus aucun toit. Hein. Et donc la dignité humaine, je veux dire, se servir comme ça, tu vois, de concept, je veux dire, maintenant c'est presque un concept collabo, la dignité, c'est devenu un concept collabo, et de dire, et puis, mais peut-être que Philippe, tu en parleras mieux que moi. En gros, la décision du TA dit, tout va bien, Madame la Marquise, on peut défoncer les trucs, sauf les lieux de vie. Et dans la décision, on lit les lieux qui ont été soigneusement aménagés et qui correspondent à des besoins réels des migrants. Des lieux donc soigneusement aménagés et qui correspondent à des besoins réels, et c'est pour ça qu'on ne va pas les détruire. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est un peu crado, tu vois. Et puis ça ne correspond pas à un besoin réel. Bah oui, c'est évident, tu vois. Une maison, ça ne correspond pas vraiment à un besoin réel, alors qu'une église ou une école, beaucoup plus.
Oui, c'est-à-dire que les lieux de vie, ce n'est pas les lieux où vivent les gens, ce sont des lieux de vie collective, c'est-à-dire ce qui sert d'école, ce qui sert d'église, ce qui sert de mosquée.
Voilà, donc ce sont. En fait, ce qui a été protégé, c'était école, église, mosquée.
Pas seulement.
Pas toujours. Il y a des
églises. Oui, il y a a priori théâtre, etc.
Ouais, centre de soins. Mais bon, c'est un peu gadget. Et puis c'est un peu. Parce que qu'est-ce que tu vois, s'il reste au milieu de nulle part un théâtre, la belle affaire. Et puis tu vois, ce côté, je trouve, lieu soigneusement aménagé. Et le reste, je veux dire, c'est comme si. Enfin, bon, c'est d'une violence. Mais enfin, je veux dire, c'est.
Ouais. Et donc cette bande, parce que tu crois que c'est une bande qui est détruite pour l'instant ?
Non, je parlais de la destruction précédente, ouais. Qui était une bande théoriquement de 100 mètres par endroit de plus, le long de la rocade qui mène au port, parce que dans l'historique de ce lieu, les autorités ont quand même trouvé le moyen de fixer les gens. À une époque où le nombre d'exilés à Calais augmentait de manière importante, tout près du port, c'est-à-dire de l'un des deux principaux lieux de passage, et juste en dessous de l'autoroute qui mène au port. C'était là où passent les camions, quoi. Donc maintenant, quand ils parlent de troubles à l'ordre public, parce qu'effectivement, les lieux de tentative de passage gratuites ont quasiment disparu et que les gens essayent de ralentir les camions sur l'autoroute juste au-dessus du campement, c'était quand même ballot de mettre les gens là, quoi, enfin, quelque part. Le trouble à l'ordre public, en fait, c'est la préfète et c'est la maire de Calais qui l'ont occasionné, s'il y a un trouble à l'ordre public. Et s'il y a une atteinte à la dignité humaine qui fait partie de cet ordre public, c'est quand même ces personnes-là qui ont forcé les exilés à s'installer là. Donc, quelque part, la préfète, elle saisit la justice contre elle-même et contre sa propre politique. Enfin, voilà.
Et donc, il y a aussi une question qui pose, enfin, quelque chose qui pose beaucoup de questions, c'est ces fameux CAO, puisqu'on dit que ces gens-là ne veulent, quand je dis ces gens-là, je le dis avec une certaine ironie, hein. Et donc, ne veulent pas aller dans les espaces qui ont été prévus pour eux, mais c'est bah, pas...
Les espaces n'ont pas été prévus pour eux, en fait.
Oui.
Les espaces ont été prévus pour vider Calais. Après, il y a eu un succès des CAO au départ, tout simplement parce que l'État ne respectait...
CAO, tu peux nous dire ce que c'est ?
Alors, centre d'accueil et d'orientation, c'est ces centres qui ont été ouverts un peu partout en France, qu'on a appelé au début centre de répit, dont la vocation officielle, qui n'est pas, qui correspond pas à la réalité, est que des exilés se trouvant à Calais, mais maintenant aussi à Grande-Synthe, donc près de Dunkerque, même situation d'un gros campement près d'un lieu de passage sur le littoral. Les exilés qui ont envie de prendre du recul, de quitter le bidonville et de se poser la question de leur projet migratoire peuvent aller sans condition de demande d'asile dans ces centres qui sont éloignés de Calais. Au départ, il y avait quelques centaines de demandeurs d'asile non hébergés dans le bidonville et des gens qui avaient obtenu le statut de réfugié, d'autant plus que l'OFPRA traitait plus rapidement les demandes d'asile déposées à Calais. Donc finalement, les gens avaient le statut de réfugié avant d'entrer dans le dispositif d'hébergement. Donc on leur disait, vous n'êtes plus demandeur d'asile, maintenant vous êtes réfugié, vous n'avez plus droit au dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile. Donc il y avait quelques centaines de personnes qui voulaient rester en France et à qui on a proposé ça, qui n'étaient pas le public normalement destinataire de ces CAO, mais qui ont profité du dispositif, tant mieux pour eux, quelque part. Sauf que ça ne résout pas le problème d'hébergement des demandeurs d'asile, ni le problème d'intégration et de construction d'un parcours individuel pour les gens qui obtiennent le statut de réfugié et qui vont rester en France, quoi. Donc on a créé ces CAO, et puis une fois que ces gens sont partis parce que ça correspondait pour eux à une solution, bah, le nombre de personnes partant dans ces CAO a baissé de manière importante. Et puis, il y a commencé à y avoir des problèmes, c'est-à-dire les gens qui demandaient l'asile à Calais, qui ensuite étaient orientés vers un CAO plutôt que vers une structure de droit commun d'accueil des demandeurs d'asile. On a commencé à se rendre compte que les dossiers suivaient mal. On a commencé à se rendre compte que dans certains CAO, ben, il y avait une mobilisation de la préfecture ou du tissu associatif qui faisait qu'il y avait un accompagnement et une information des gens. Mais que dans d'autres CAO, finalement... ils voyaient quasiment personne sauf pour leur apporter à manger. La plupart de ces CAO sont situés en milieu rural, souvent dans des centres de vacances qui eux-mêmes peuvent être situés à l'écart du village sur le territoire duquel ils se trouvent. Donc on a des gens qui se retrouvent dans une situation d'isolement, sans information, sans savoir comment avancer dans leur projet. Donc on a des gens qui, face à ces difficultés, ont commencé à revenir. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent de ces CAO. C'est-à-dire que ça ne correspond visiblement pas à leurs attentes, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non. Ceux qui reviennent, parce qu'effectivement, c'est l'hiver, la pression est forte, ça permet de se reposer un peu, et puis qu'ils repartent parce que leur projet n'est pas de rester en France et qu'ils voient que ça ne le fait pas. Et puis d'autre part, des demandeurs d'asile qui se retrouvent là et qui voient que leur dossier n'avance pas et qui reviennent là où ils connaissent des associations, des gens qui peuvent les conseiller, où il y a aussi une solidarité de groupe qui les soutient, donc qui quittent ces structures où ils se retrouvent isolé au milieu de nulle part.
Ouais. Et puis on a vu, je crois, des gens qui étaient en CAO, qui introduisaient une demande, qui finalement décidaient d'introduire une demande d'asile, et puis qui se sont retrouvés avec des OQTF.
Oui, alors il y a, ça j'ai pas d'exemple précis. Les exemples que j'ai effectivement, c'est de gens qui ont quitté les CAO et qui ont reçu une OQTF en quittant le CAO. Vous êtes libre d'aller et venir, vous n'êtes pas obligé de rester, mais quand même, d'une part. Et d'autre part, il y a toute cette hypothèque sur les gens qui sont en procédure Dublin. Donc, selon le règlement Dublin 3, c'est un autre pays européen que la France qui est responsable de leur demande d'asile. Donc, la France est censée les réacheminer vers ce pays-là. Classiquement, à Calais, les gens se font oublier pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, le règlement Dublin 3 dit bah, si la personne n'a pas été renvoyée dans le pays responsable, c'est la France qui devient responsable. Donc, c'est dur de vivre 6 mois dans des conditions pareilles, mais les gens faisaient souvent ce choix-là où ils se repliaient un peu sur Paris, etc. En tout cas, ils géraient ça. Les préfets ont reçu l'instruction par deux deux circulaires successives d'appliquer les décisions de renvoi dans le cadre de Dublin III. De fait, très peu le font, et certains font même le contraire, qui sont de dire on ne va pas nourrir les gens, les héberger pendant 6 mois, alors qu'on a la faculté d'examiner leur demande d'asile tout de suite, toujours selon le règlement Dublin III, un pays, même s'il n'est pas responsable, peut examiner une demande d'asile. Donc on a des préfets qui examinent les demandes d'asile tout de suite, qui utilisent cette clause de souveraineté, mais on en a d'autres qui placent en résidence surveillée, en assignation à résidence, pardon, des personnes pour les renvoyer vers le pays où il est, qui est responsable de leur demande d'asile. C'est un peu des cas isolés pour l'instant, et il y a une certaine vigilance des associations. Ce qu'on craint, c'est que d'une part, toute une partie des CAO sont dans des centres de vacances, donc à partir des vacances de Pâques, il va falloir les vider. Et d'autre part, pour l'instant, la préoccupation de l'État, c'est qu'un maximum de personnes foutent le camp de Calais. Donc du coup, on fait les gentils et puis on essaye de ne pas trop expulser. Simplement, dans 2 mois, qu'est-ce qu'il en sera? On n'a absolument aucune garantie que les décisions d'expulsion ne vont pas être mises en œuvre.
Ah, on a vu quand même, je crois, c'était sur le CAO qui est, je dis de mémoire, à La Roche-sur-Yon, et 2 Soudanais qui se sont retrouvés justement avec, en vertu de Dublin II, qui se sont retrouvés en Italie.
Oui, 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 il y avait aussi des...
Ouais. Ouais, exactement, en violation des promesses qui avaient été faites, puisque celles et ceux qui acceptaient d'aller en CAO, c'est le ministre qui avait dit ça, ou le préfet, qui avait promis et repromis que ceux qui acceptaient de partir en CAO ne seraient pas dublinés. Et manifestement, comme d'habitude, ils ne tiennent pas leurs promesses.
Voilà, et puis je crois qu'il y a des CAO, enfin il y a des situations, il y a un peu plus d'une centaine de CAO qui sont répartis sur tout le territoire national. Donc on est dans le processus d'invisibilisation.
Oui, et... c'est extrêmement compliqué d'avoir un retour de ces CAO. La FNARS vient de faire une étude sur 27 CAO, donc à peine plus du quart.
Fédération nationale
des associations de réinsertion sociale. Et du coup, ils ont identifié 26% de départ de ces CAO, donc beaucoup plus que les chiffres que donnait l'État. Après, ils ont accès aux données là où il y a une association membre qui est gestionnaire ou intervenante dans le centre. Il y a d'autres lieux où on n'a aucune visibilité, effectivement.
Voilà. Donc, on va peut-être finir sur Calais et les CAO, parce que on a eu énormément de choses à dire et qu'il nous reste même plus à peine plus de 10 minutes pour parler de la Turquie, qui était supposée être la moitié de l'émission. Et donc, Isabelle, tu vas nous...
Non, mais je voulais juste quand même poser une question à Philippe, de savoir est-ce qu'on sait ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, ou... Enfin, ça continue comme...
Oui, ça continue. Aujourd'hui, c'est un autre quartier qu'ils ont commencé à démolir. Alors, je n'ai pas été connecté depuis le début de l'après-midi. Visiblement, ça se passe moins en mode cow-boy et moins confrontationnel que ça s'est passé le premier jour ou hier matin, par exemple. Déjà, hier après-midi, ça semblait être tendu, mais pas avec cette violence visible des gaz, etc. Et là, ça va leur prendre, je ne sais pas, 1 semaine, 2 semaines pour raser la partie sud du bidonville. Et ce qu'avait dit la préfète, c'est que d'ici la fin du mois de mars, il ne devait plus rester de bidonville du tout. Donc, il devrait enchaîner sur une procédure d'expulsion de la deuxième moitié. Après, ça dépend aussi de la mobilisation qu'il y a sur place, de la mobilisation qu'il y a autour, d'un rapport de force. Voilà, enfin, si vous connaissez des gens à Europe Écologie Les Verts, par exemple, vous pouvez leur rappeler que leur toute nouvelle ministre, son premier acte, c'est de détruire les habitations de quelques 7000 personnes.
Je pense que les rapports entre ELV et la nouvelle ministre ne sont pas les plus cordiaux. C'est un trajet politique, somme toute, très, très habituel de la part des gens qui ont décidé de faire de la politique de façon traditionnelle. On oublie ce qu'on a fait de façon collective et avant. Bon. Comme Yves le rappelait, et tu l'as dit aussi, Philippe, je pense que ça a vraiment du sens de parler en même temps et de la Turquie et de Calais, comme on l'avait fait avec Jean-Pierre Allot il y a 2 mois.